おかしい、おかしい。
Bonsoir, au centre de dialogue entre Congolais de ce mardi, vague de rapatriement des Congolais de l'étranger. Après l'annonce des Pays-Bas, près de 4000 Congolais de Grande-Bretagne bientôt expulsés pour séjour illégal. Qu'est-ce qui explique cette vague de rapatriement maintenant ? Quelles sont les mesures d'accompagnement et encadrement prévues par les pays d'immigration et le gouvernement congolais ? Pour y répondre, nous recevons le professeur Moïla Chiembe. Il est directeur du Centre de recherche sur la géopolitique à Nancy en France. Il est également président de la Fédération des Congolais de France. Il est en séjour à Kinshasa. Nous avons aussi dans ce studio M. Ruffin Kilimpimpi. Il est conseiller juridique de l'administrateur directeur général de la Direction générale de migration. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
Voilà. Nous avons tenté en vain d'avoir un membre du cabinet du ministère des Affaires étrangères. Mais personne n'a accepté de participer à cette émission. Les auditeurs, vous qui nous suivez, vous êtes nombreux à vous être exprimés sur cette question. D'abord, Francis Mboma, depuis l'Autriche en Europe, demande, est-ce que l'actuel gouvernement est en mesure de bien encadrer tous ses compatriotes qui seront refoulés ? Il veut aussi s'assurer si toutes les causes à l'origine de leur déplacement sont déjà repensées. Quelles dispositions seraient prises par le gouvernement face aux nombreux sans-papiers présents sur le territoire national congolais ? S'interroge encore une fois Francis Mboma. Et notre auditeur Marcel Oyumbu, étudiant de l'ITA à Kinshasa, demande s'il y a moyen que les Congolais sans-papiers vivant à l'étranger régularisent leur situation dans ces mêmes pays d'accueil. Enfin, Ange Kayeou de Lubumbashi au Katanga salue la décision de la Grande-Bretagne qui, selon lui, nous interpelle pour qu'en quittant le pays, on réunisse tous ces papiers en ordre. A tout de suite pour le débat dans ce dialogue entre congolais.
Vous voulez participer à l'émission ? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
L'annonce est tombée vendredi dernier de la part de l'ambassadeur britannique en RDC, cité par l'agence congolaise de presse, ACP, selon un dispatch qui sortait d'une audience auprès du ministre des Affaires étrangères Moussa Nyamoussi. 4000 Congolais immigrés en Grande-Bretagne jugés sans papier seront bientôt refoulés vers la RDC. Ces Congolais, d'après la même source, constituent une main-d'œuvre importante devant contribuer à l'effort du développement de la RDC. L'ambassadeur britannique ajoute que ces immigrés illégaux vont être rapatriés dignement à bord des vols spéciaux des avions mis par Londres à cette disposition. Nous avons tenté en vain d'avoir des détails auprès de l'ambassadeur britannique. Sachez que cette annonce intervient un mois après celle du chef de mission adjoint à l'ambassade des Pays-Bas à Kinshasa pour André Delvaux. 177 Congolais sans papier vivant aux Pays-Bas seront aussi bientôt rapatriés. Il a fait cette annonce le 31 mai dernier à Radio Okapi. Comme son collègue diplomate britannique, le chef de mission hollandais rassure que ce sera un retour dans la dignité, dans la mesure où la plupart des concernés, d'après lui, ont accepté volontairement de retourner au pays, leur séjour étant devenu illégal faute de papiers valables. Je vous propose de suivre André Delvaux, chef de mission à l'ambassade des Pays-Bas. Ses propos sont recueillis par Daniel Tambizoni.
La plupart de ces Congolais sont d'accord avec rapatriement volontaire. C'est seulement les exceptions qui méritent des mesures un peu plus forcément. Quand il s'agit des Congolais criminels, par exemple, ce sont des Congolais qui ont donné beaucoup de problèmes aux Pays-Bas.
Les Congolais, ils sont partis pour des besoins évidents, des besoins réels. Les Pays-Bas estiment que ces besoins n'ont plus de raison d'être.
Non, les besoins sont là, ça c'est clair. Quand tous les moyens légaux sont déplis, c'est nécessaire pour eux de retourner à leur pays. Et c'est pour cette raison que le gouvernement néerlandais a mis disponible une contribution financière.
Toujours selon le diplomate hollandais, seront rapatriés de force tous les coupables d'actes criminels. Quant à la prise en charge financière de réintégration, elle sera de 100 euros pour chaque mineur, 500 pour les adultes et 1000 euros pour les familles de plus de 3 enfants. Dans cette vague de rapatriement des Congolais de l'étranger, on peut aussi citer l'Angola, car de sources proches de la DGM Bas-Congo, une centaine de Congolais ont été refoulés en une semaine, donc du 13 au 25 juin dernier, au niveau de Moanda, et cela, dit-on, dans des conditions inhumaines. Qu'est-ce qui explique cette vague de rapatriement de Congolais de l'étranger? Comme je vous l'ai dit au début, nous avons dans ce studio M. Ruffin Kilimpimpi. Vous êtes conseiller juridique de l'ADG et de la DGM. Comment vous expliquez justement cette série de rapatriements?
Merci, M. Jean-Claude Kamanga, pour la question. D'entrée des jeux, je me dois de relever que la présence d'une personne sur le territoire d'un État autre que le sien est subordonnée par l'obtention d'un visa et éventuellement d'un permis de séjour. En dehors de cette conditionnalité, la personne se place dans une position d'immigration irrégulière. Et je me dois également de relever que l'immigration irrégulière est une réalité sociale. Je crois comprendre que la vague de refoulement à laquelle vous faites allusion fait suite à un contrôle de séjour initié par les autorités des différents pays auxquels vous avez fait allusion.
Donc c'est leur droit.
C'est leur droit et je continue pour vous dire que le contrôle de séjour des étrangers relève de la politique nationale. Donc la RDC ne peut pas empêcher un État de pouvoir faire respecter le droit sur son territoire. Parce qu'il s'agit, à mon humble avis, de la détermination d'un État souverain à faire respecter la loi sur son propre territoire. C'est donc une manière pour ces pays de lutter contre l'immigration irrégulière. Mais nous pensons également que cette lutte qui relève de la discrétion de chaque pays, qui relève, n'est-ce pas, de la décision nationale au niveau des instances de tel pays, doit être menée de manière humaine, c'est-à-dire dans le strict respect de la dignité humaine.
Oui, mais M. Ruffin, comment vous expliquez cette coïncidence ces plusieurs pays, on parle même de la Suisse, je ne sais pas si vous confirmez cette information.
Oui, lors du dernier séjour du chef de l'Office fédéral suisse de migration, au cours de l'entretien qu'il a eu avec son homologue congolais, il a informé la partie congolaise de la réelle détermination des autorités suisses à pouvoir rapatrier au pays 800 Congolais en situation irrégulière. C'est peut-être un concours de circonstances qui fait que tel pays, tel autre, dans le strict respect des dispositions pertinentes légales internes, ces pays se sont mis d'accord pour pouvoir faire respecter la loi et opérer un contrôle de séjour des étrangers sur leur territoire.
Donc, vous dites que c'est peut-être un concours de circonstances. On va essayer d'avoir le point de vue du professeur Moïla Chiembe. Professeur, vous êtes en ligne?
Oui, j'écoute Ruffin, je partage la première partie de sa réflexion. Bien entendu, nous sommes devant les responsabilités de chaque État souverain, son droit de contrôler qui est-ce qui a le droit de rester sur son territoire national, les conditions d'entrée de séjour et éventuellement des sorties d'un État. Donc, la Grande-Bretagne ne fait qu'appliquer sa propre législation. Mais ce qui est un peu étonnant, c'est non seulement le concours de circonstances dans l'accumulation. Il y a le Pays-Bas qui doit chercher environ 177, d'après les informations que vous détenez.
Oui.
La Suisse pourra mettre en congé ou expulsé environ 800 Congolais et la Grande-Bretagne a mis la main ou mettra la main sur environ 4000 Congolais. La première question, c'est est-ce que ces 8000 Congolais sortaient-ils de prison ou est-ce que s'agit-il de rafles? Est-ce que comment est-ce qu'on peut, en l'espace d'une semaine, d'un mois, mettre la main sur 4000 personnes? S'agit-il des condamnés? Est-ce que parmi ces gens, s'agit-il des adultes? Est-ce qu'il y a des femmes et enfants? Est-ce qu'il y a des enfants mineurs? Y a-t-il des nouveau-nés sur le sol de l'Angleterre qui vont être amenés au Congo, le pays qu'ils ne connaissent pas et dans l'état actuel des choses? Toutes ces questions, mais vraiment, j'avoue que je suis assez ennuyé, non pas parce que le gouvernement de Grande-Bretagne et d'autres gouvernements des Pays-Bas, s'il ne s'agit pas de contester la légalité de cette décision, mais quelles sont les conséquences? Parce que rappelons que La République démocratique du Congo, c'est un pays post-conflit qui a été ravagé par la guerre. L'Angleterre, les Pays-Bas, la Suisse, il faut voir les ambassades ici et leur proclamation de foi. Tout le monde a soutenu ou est déclaré soutenir ce pays, ses dirigeants, la transition pour l'aider à sortir un peu de ce chaos.
Vous voulez dire que ce n'est pas le moment, professeur ?
Mais ce n'est pas le moment parce que le gouvernement a à peine quelques 6 mois. Encore moins parce que depuis 6 mois, le gouvernement n'était pas totalement constitué. On se bat encore pour un budget qui est dérisoire à 2 milliards de dollars, alors que l'immensité des problèmes, sans compter les 5 chantiers du président, sont là et tout le monde se demande comment ça va être réalisé. Renvoyer autant de gens en l'espace de quelques jours, est-ce qu'il n'y a pas là une tentative de déstabilisation de ce nouveau gouvernement? Parce qu'on ne voit pas pourquoi la Grande-Bretagne aurait attendu ce moment-ci pour lâcher dans la nature 4000 Congolais, si on y ajoute 800 de la Suisse, attendus ou proclamés, les 177 des Pays-Bas, probablement que d'autres pays européens seront dans la danse.
Sans oublier l'Angola.
Sans oublier l'Angola, qui est le pays voisin. Tout le monde sait qu'il ne s'agit pas de la charité, certes, mais il faut constater que dans l'état actuel des choses, le gouvernement congolais, quelle que soit sa bonne foi, n'a pas les moyens de créer de l'emploi dans ce pays et d'aider, tout au moins de créer les conditions qui permettent à la jeunesse, un tiers ou la moitié de la jeunesse congolaise, d'avoir accès à l'emploi.
Mais c'est un pays qui a aujourd'hui un gouvernement élu.
Oui, mais le gouvernement élu, il faut donner du temps au temps. Ce gouvernement n'a que quelques mois. Il se bat dans des difficultés incommensurables, à commencer par les difficultés budgétaires, le problème des moyens, que tout le monde connaît, que la Suisse connaît, que la Grande-Bretagne connaît, que les Pays-Bas connaissent. Alors, à ce moment-là, des deux choses l'une, ou bien on invoque l'humanité, alors il faut aller caresser dans le sens du poil les réfugiés et s'apesantir sur le sort du Congo, ou bien on considère que le gouvernement congolais, qui sort de la guerre fragilisé et saigné à blanc, n'a pas les moyens de créer les conditions de l'emploi ici, et qu'en conséquence de quoi, il serait prudent, dans l'intérêt même de relations entre ces différents pays et le nouveau gouvernement, de garder d'abord ces Congolais là où ils sont, d'attendre voir ce que le gouvernement est capable de faire, ou éventuellement donner un coup de main à ce gouvernement, non seulement pour que l'emploi soit créé, et éventuellement voir quelles sont les circonstances futures dans lesquelles ces Congolais peuvent être expulsés. J'avoue que voir cette vague déferlante d'expulsion des Congolais, alors que le gouvernement est à peine en situation de gouverner réellement ce pays, ça me paraît bizarre. On peut se demander dans sa raison s'il n'y a pas là une volonté quelconque de déstabilisation.
Merci, professeur. Comment les Congolais accueillent ce rapatriement de leurs compatriotes de l'étranger? Le réseau Okapi a interrogé quelques personnes à Matadi, à Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa et à Kikwit au Bandundu. Certaines personnes trouvent justifié cet acte si ces Congolais vivent dans l'illégalité, mais ces Congolais exigent des pays concernés qu'ils respectent les conditions de rapatriement. D'autres souhaitent cependant que les autorités congolaises agissent de même vis-à-vis des étrangers illégaux qui vivent en RDC. On les écoute.
Je suis de Lubumbashi, je réponds au nom des taxis Nguyenda. Ce qui importe, c'est que le Congolais sache que le Congo appartient uniquement et précisément aux Congolais et qu'ils ne s'hasardent pas à fuir leur pays au lieu de le construire et envier d'autres pays plutôt que leurs deux pays où ils sont actifs.
Monsieur Pierre Bassilois, je suis de la ville de Matadi. Nous sommes très touchés dans la mesure où nous, chez nous, nous hébergeons plusieurs étrangers mais qui n'ont jamais été expulsés. Mais nous, quand nous allons vers l'extérieur, on nous traite comme des animaux. Ça, c'est un comportement inhumain que nous, on ne peut pas apprécier. Il aurait fallu le faire dans le respect des droits humains que de pouvoir expulser des gens comme étant des animaux. Nous exhortons le gouvernement de ce pays-là de pouvoir faire rapatrier nos compatriotes avec toute dignité humaine.
On m'appelle Georges Bola. Ce sont des Congolais qui sont à l'étranger sans papier. On ne les refuse pas. Mais le problème est que nous, les Congolais, nous sommes toujours victimes à l'étranger. Mais les étrangers qui sont ici au Congo, personnellement à Kinshasa, même à l'intérieur du pays, qui sont là sans papier. Pour marcher là, il y a un service des étrangers ici, des jeunes, je sais bien. On dit les cagnacs, hein, on les donne les choses, l'argent pour nous faire assister ici.
Moi, c'est M. Laoui Abelard, je réside la ville de Kipit. Je suis en train de saluer cette décision. Parce que normalement, dans un état de droit, il fallait que ça se passe comme ça pour éviter, n'est-ce pas, l'existence des bidonvilles ainsi que toute forme de crise qui pouvait s'implanter dans le pays. Je suis en train de sentir aussi que ça serait un appel qui est lancé du côté RDC, peut-être qui est tourné en raillerie, de voir que dans notre pays, tout le monde, n'importe qui, même sans document, il entre, il sort, incontrôlé, de telle sorte que on n'a pas d'emploi, on n'a pas, je ne sais n'importe quoi, la crise s'implante, de toute forme.
Je suis habitant de Kisangani. Moi, je pense que la procédure devait être plus diplomatique. Il y a certains de nos frères qui sont à l'étranger, qui n'ont pas allé à l'étranger parce qu'ils veulent tout simplement habiter l'Europe ou les États-Unis. Mais ils ont eu peut-être des problèmes d'ordre politique et qui ont demandé asile. Comme nous sommes dans un pays qui vient de guerre, je pense que nos frères qui sont là, ils doivent également se conformer aussi aux normes et aux exigences de ces pays-là.
Monsieur Ruffin Kilimpimpi, conseiller juridique de l'ADG et de la DGM, comment vous trouvez la position de ces Congolais?
Merci pour la question. Je comprends, je me mets à la place de tous ces Congolais qui sont intervenus. Je refais de même à leur place. Il y a d'une part ce souci de voir nos frères qui sont à l'étranger se conformer aux règles du jeu, c'est-à-dire au respect de la réglementation internationale. Pour ne pas dire au respect de la réglementation du pays d'accueil, c'est-à-dire obtenir un visa, un permis de séjour. Mais de l'autre, il y a également cette, comment dirais-je, ces soucis, n'est-ce pas, de voir ces pays réagir au même moment, alors que, comme l'a si bien dit le professeur Moïla, la RDC est un pays post-conflit. Nous n'avons pas tous les paramètres possibles aujourd'hui, pour pouvoir accueillir tous ses concitoyens. Évidemment, vous savez, un pays qui revient de la guerre n'a pas la politique de ses moyens. Elle survit très souvent grâce à la générosité de la communauté internationale. Le professeur a évoqué les problèmes du budget. Le Grand Congo ne peut pas se contenter d'un budget de 2 milliards, mais le Congo est bien obligé de s'y soumettre compte tenu du fait qu'il revient d'une longue guerre.
Oui, mais monsieur Ruffin, il y a un autre auditeur, lui, il est à Isiro, en province orientale, il s'appelle Kanalina Papi, il estime que ces pays ont raison, un peu comme vous l'avez dit, parce que, bon, si des immigrés sont dans l'illégalité, ils ont donc, ces pays ont raison de les rapatrier, mais, demande cet auditeur, la RDC doit à son tour appliquer ce qu'il appelle le code d'Amourabi, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Est-ce que vous, qui êtes de la DGM, est-ce que vous pouvez appliquer ça à RDC aussi, rapatrier des étrangers qui sont dans l'illégalité en RDC?
Je ne pense pas que nous puissions, dans l'état d'espèce, faire montre de ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Comme vous le savez, vous devez d'ailleurs le savoir, la République démocratique du Congo, notre pays, est un pays hospitalier. Évidemment, nous ne pouvons pas confondre l'hospitalité avec le non-respect de dispositions légales en vigueur. Il est certes vrai que nous hébergeons une forte colonie de ressortissants étrangers sur notre pays, mais le contrôle des séjours des étrangers, comme je l'ai dit tout à l'heure, reste toujours une décision nationale. Donc, il appartient au gouvernement de lever l'option, parce que la direction générale de l'immigration, c'est un service du gouvernement qui a pour, entre autres missions, n'est-ce pas, de gérer les flux migratoires, en ce compris le séjour des étrangers sur notre territoire.
Donc, vous ne pouvez pas le faire maintenant, si je comprends bien.
Non.
C'est-à-dire, la RDC ne peut pas le faire maintenant, comme vous l'avez dit.
Je viens de vous dire que le contrôle du séjour des étrangers reste toujours une décision nationale. Donc,
mais on ne sent jamais la direction des étrangers qui sont dans l'illégalité, on ne le suit pas, hein, qui sont expulsés, un peu comme ça se fait.
Je ne pense pas, peut-être que vous n'avez pas l'information. Lorsque vous passez au niveau de ce qu'il convient d'appeler le centre de transit, qui est situé dans les installations de la direction provinciale de la DGM ville de Kinshasa, derrière Kilmazière, au moment où je vous parle, il y a des étrangers qui sont en situation irrégulière. et depuis le mois de février jusqu'à ce jour, plus de 190 ressortissants étrangers en situation irrégulière ont été reconduits à la frontière, tant par le beach Ngobila que par l'aéroport international d'Njili.
Vous ne l'annoncez peut-être pas suffisamment.
Un déficit communicationnel, certainement. Ce matin, avant-hier, il y a eu 10 qui ont été reconduits à la frontière. Ce matin, il y en a eu 6. Demain, il y en aura encore. Donc, ce n'est pas vrai de dire que la République démocratique du Congo ne reconduit pas les ressortissants qui sont en situation irrégulière sur son territoire.
Oui, je vais revenir à vous, hein, parce qu'il y a d'autres questions qui vous sont réservées. Nous avons en ligne le professeur Moïla Tchimbe. Professeur, vous avez suivi les Congolais qui ont parlé. Je ne sais pas quelle impression ils vous ont donné.
Mais disons que je comprends la légitimité de leurs propos. Vraiment, quand on vit ici et que on apprend que tel ou tel Congolais est chassé ou des États-Unis, de la France ou d'Angleterre, les gens ne se rendent pas compte de la situation dans ces pays-là, parce qu'eux-mêmes n'y ont jamais été. Ils regardent la télévision, ils se disent, ben bon sang, pourquoi sont-ils allés là? Nous, on est ici, dans la misère, etc. Ils sont allés chercher la place au soleil, etc. Donc, la réaction est compréhensible, mais le problème n'est pas en soi, ni de contester la légitimité du gouvernement de Grande-Bretagne, qui applique sa propre loi. La question, c'est pourquoi maintenant? Parce que tout le monde sait que l'Angleterre, comme les autres pays, la Suisse et les Pays-Bas, sont ici dans ce pays, leurs ambassadeurs et autres représentants, y compris leur propre pays d'origine, en situation de considérer que la République démocratique du Congo est un pays signé à blanc par les guerres. Donc son gouvernement, à peine 6 mois d'existence, n'a pas la capacité financière et encore moins la capacité de créer les emplois. Alors pourquoi ne serait-il pas nécessaire pour ce gouvernement de tenir par devers eux ces Congolais et attendre le moment venu de négocier avec le gouvernement congolais la possibilité de leur retour dans leur pays?
Voilà, professeur. Oui, professeur, il y a une question d'un autre auditeur. Il s'appelle Moses Kalepa, de Butembo, Nord Kivu. Il se demande comment près de 4000 Congolais sont parvenus à immigrer en Grande-Bretagne. Comment vous pouvez expliquer cela? Qu'est-ce qui attire ces Congolais en Grande-Bretagne? Parce que vous résidez en France.
Mais disons que généralement, on voit des jeunes Congolais, les moins jeunes, qui arrivent en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Évidemment, il y a l'attirance, il y a les images télévisuelles d'un bonheur absolu, hein, tout ce qui est montré par les films ou par, que sais-je encore, des images d'Épinal, qui font croire à ces jeunes qu'il suffit seulement de prendre les risques. Dès qu'on arrive là-bas, on trouve du travail, on peut bien gagner sa vie. Ce qui est générique, parce que la plupart des jeunes gens qui arrivent, que ce soit en France ou ailleurs, sont dans un état de misère indescriptible ici. Parce que, à la différence du fait que par l'hospitalité, par notre culture, même si vous n'avez pas quelque chose, le voisin ne vous connaissant pas peut vous aider, en Europe, c'est quelque chose qui n'existe pas. Mmh. Si vous n'avez rien, mais vous n'avez absolument rien, à moins, bien entendu, de tomber sur des ONG, hein, les rares ONG qui existent là-bas pour accueillir les gens qui sont en difficulté. La situation est terriblement, éprouvant pour quelqu'un qui arrive de l'étranger, qui est tout seul sur le pays de l'individualisme exacerbé, il faut bien le rappeler. Et la quasi totalité des pays européens ont été ravagés par les idées racistes, pour ne pas dire xénophobes en Angleterre comme sur le continent, qui font que les gouvernements sont pris le couteau par la gorge,
oui,
la gorge, pour pouvoir expulser les étrangers parce que ça ne peut pas pouvoir. Et puis il y a le problème des élections, hein, les gouvernements d'opinion dépendent toujours des élections. Donc tout ça est compréhensible, mais la question que je continue à me poser, c'est pourquoi cette vague est déclenchée maintenant, alors qu'il n'y a rien de particulier qui soit intervenu depuis. Tous ces gouvernements connaissent la situation de la République démocratique du Congo, ils connaissent bien la situation plus ou moins chaotique dans laquelle se trouve le gouvernement.
Ouais, ça vous l'avez déjà dit, professeur. Ouais, professeur, et une autre question d'un autre auditeur, c'est Marcel Oyumbu, il est étudiant de l'ISTA à Kinshasa. Lui, il demande, est-ce qu'il n'y a pas moyen que ces Congolais sans papier, comme ceux de la Grande-Bretagne et autres, puissent régulariser leur situation à partir même de ces pays d'accueil? Il n'y a pas moyen qu'ils le fassent?
Ben, disons que pour l'instant, on ne sait pas quelle est la nature de ces Congolais. S'agit-il des adultes qui vivent en Angleterre combien d'années? Au regard de la législation britannique, est-ce que ils ont été assistés par des avocats pour examiner l'opportunité de la régularisation de leur situation au regard de la loi même de la Grande-Bretagne? S'agit-il des enfants des Congolais nés sur le sol de la Grande-Bretagne? On n'a pas des informations à partir du chiffre qui a été donné. On ne sait pas dans quelles conditions ils ont été, répertoriés. Est-ce qu'il y a eu violence? Et s'agit-il des personnes emprisonnées jadis que l'on veut expulser parce que la transition est terminée? On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, qu'est-ce qui les a assistés. Il y a notre collègue, le professeur Pambou, qui est le président de la Fédération des Congolais et de l'étranger en Grande-Bretagne, que je n'ai pas pu joindre au téléphone pour savoir quelle a été la situation, a-t-il été informé, ou quelles sont les démarches que la Fédération des Congolais et de l'étranger en Angleterre est en train de mener en ce moment. Donc, je ne peux pas vous dire concrètement sur le terrain qu'est-ce que la Fédération fait en ce moment. Est-ce qu'on a des informations? Est-ce que tout le monde était au courant? Je ne peux pas vous dire.
Oui, professeur, on revient dans ce studio avec Ruffin Kilimpipi, conseiller juridique de l'ADG et de la DGM. Il y a un autre auditeur, parce qu'on a beaucoup de réactions des auditeurs. Il s'appelle Janvier Makumbuko de Bounia dans la province orientale. Pour lui, la DGM de notre pays, donc où vous travaillez, doit y tirer leçon, car l'est du pays, dit-il, est une porte d'entrée des sans-papiers étrangers, M. Ruffin Kilimpipi. Est-ce que vous avez tiré des leçons, est-ce que vous allez tirer des leçons de cette vague de rapatriement pour les frontières congolaises de l'Est?
Oui, vous savez, il n'est un secret pour personne au sujet de nos frontières. L'opinion a souvent soutenu que nos frontières étaient poreuses. Cela se justifie par deux raisons. La première, et que nous revenons, comme vous l'avez si bien dit, et même le professeur l'a avoué, nous revenons d'un conflit qui a duré plus de 10 ans. Et la deuxième, c'est que la frontière entre la République démocratique du Congo et les pays voisins sont pour la plupart poreuses, n'est-ce pas? Non pas poreuses, mais ce sont des frontières naturelles. Il est difficile de tracer la ligne de démarcation entre la République démocratique du Congo et l'Angola, au-delà des bornes. N'eût été ces bornes, une personne partirait facilement de l'Angola pour la RDC et vice-versa, sans s'apercevoir qu'elle était en train de franchir une frontière. Et ça, c'est de trois.
Donc, vous avez, c'est quoi? C'est un problème de moyens que la DGM n'a pas, ou c'est quoi qui ne vous permet pas finalement de contrôler ces frontières?
Ce n'est pas une question de moyens de la DGM. Vous savez que nous partageons nos frontières avec 9 pays voisins. Et au niveau de nos frontières, nous avons ce que nous avons appelé des frontières qui sont naturelles. Donc il faut des moyens, mais ces moyens doivent être disponibilisés par le gouvernement. Or, vous êtes sans ignorer que le gouvernement de la République est un gouvernement post-conflit qui est confronté à un ensemble de problèmes, tous d'ailleurs urgents, pour ne pas dire extrêmement urgent. Donc, ces soucis de sécuriser la frontière est un souci légitime du gouvernement. D'ailleurs,
les Congolais qui vous suivent, M. Ruffin, ne se sentent pas rassurés.
J'en viens. Au moment où nous parlons, vous êtes sans ignorer que au niveau de la police nationale, le président de la République a créé la police des frontières. C'est juste dans cette perspective de mieux sécuriser la frontière sur le plan physique. Parce que nous avons la protection physique des frontières, et puis nous avons la gestion de points d'entrée.
Les sans moyens.
Direction, je vous en prie.
Les sans moyens.
On y arrivera. La Direction générale des migrations contrôle la frontière au niveau de points officiels d'entrée. Ces points, à ce niveau-là, vous avez les autorités d'immigration qui gèrent le flux migratoire. La gestion des flux migratoires rentre dans les attributions de la Direction générale des migrations.
Oui, on a les mêmes frontières, mais l'Angola n'hésite pas à expulser les Congolais qui sont dans l'illégalité. C'est aussi des frontières naturelles, M. Rodin.
Oui, il est certes vrai que l'Angola expulse les Congolais. Je ne voudrais pas entrer dans la dynamique de la politique intérieure angolaise. Mais je note seulement que, au niveau de la direction générale de l'immigration, il y a cette réelle volonté, il y a cette détermination, n'est-ce pas, de pouvoir opérer un contrôle de séjour des étrangers sur les territoires congolais.
Est-ce que vous avez une idée, une autre question, est-ce que vous avez une idée du nombre total des Congolais à l'étranger? Évidemment, c'est une question qu'on devrait poser à la vice-ministre des Congolais de l'étranger. Bon, elle n'est pas disponible pour participer à cette émission, mais est-ce que vous avez une idée des Congolais qui vivent à l'étranger?
La question est pertinente, d'autant plus que la RDC entretient une forte colonie à travers le monde. Au niveau de la direction générale d'immigration, il existe une division d'immigration. Cette division a pour mission de gérer les flux migratoires de compatriotes congolais vers l'extérieur.
Vous avez une idée de combien ils sont?
Il nous est impossible en ce moment de vous donner avec précision les chiffres exacts, parce que au regard de l'article 14 du décret loi numéro 002/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de la direction générale des migrations, il fallait un déploiement des officiers des migrations à travers les ambassades et autres représentations diplomatiques.
Vous n'avez même pas une estimation, M. Roussin.
En tout cas, c'est difficile pour la direction générale des migrations, étant donné qu'elle n'a pas encore eu à déployer les officiers des migrations dans les chancelleries, dans nos ambassades.
Voilà.
Donc la question aurait été posée au niveau du vice-ministre, de la vice-ministre de
Congolais étrangers.
Voilà. Mieux outillé pour vous donner des éléments de réponse.
Ouais. Professeur Moïla Tchembe, vous qui êtes président de la Fédération des Congolais en France, vous avez peut-être une idée des Congolais qui sont en France et peut-être en Europe.
Disons que les estimations actuelles pour l'Amérique du Nord, ou l'ensemble de l'Amérique, l'Europe et une partie de l'Afrique, on arrive à un chiffre approximatif de 1 à 1,5 million d'habitants, enfin de Congolais, de l'étranger, sans compter les femmes et les enfants. Donc on a là une colonie importante. Aujourd'hui, ces chiffres probablement sont dépassés, parce qu'ils datent des années 2000-2001. Donc, on n'a pas, bien sûr, il y a des clandestins sur lesquels on ne peut pas savoir combien ils sont, mais les chiffres plausibles à partir des documents accessibles des administrations des pays d'Europe et d'Amérique, du Nord et de l'Amérique centrale, permettent de penser qu'il y a environ 1 à 1,5 million de Congolais qui vivent à l'étranger, à la fois en Europe, en Amérique et dans une bonne partie des pays africains.
Bon, qu'est-ce qui peut faire, professeur, que des Congolais, les 4 000 qui sont en Grande-Bretagne ou la centaine au niveau des Pays-Bas, n'aient pas de papier en ordre?
Disons que tout à l'heure, vous étiez en train de parler de frontières, en regrettant éventuellement que les frontières de la RDC soient des frontières poreuses. Je vais vous dire que les frontières de l'Europe sont probablement parmi les frontières les mieux gardées du monde. Dès lors que vous avez des jeunes désespérés qui pensent que la vie dans leur propre pays n'a plus de sens ou de signification, et que ces jeunes, alors leur corps défendant, décident d'aller se faire fracasser sur les roches de Gibraltar ou des Canaries, rien ne peut arrêter des jeunes arrivés à ce degré de désespérance, parce que leur vie n'a plus de signification. Et d'ailleurs, chaque jour qui passe sur la frontière de l'Europe, on ramasse ou des morts ou des naufragés, et il y en a quelques-uns qui arrivent comme rescapés, arrivés sur le continent, qui par la suite à être rapatriés. Donc le problème ici n'est pas en soi de frontières en tant que telles, le problème c'est comment les pays industrialisés, où les gens ne meurent pas de la misère, même s'il existe aussi une poche de misère chez des Européens qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais ce qui est différent de ce qui s'est fait pratiquement ici, comment faire en sorte que ces pays-là qui ont les moyens, notamment dans le cas de ce qui nous concerne ici, qui connaissent bien la situation des espérances du gouvernement congolais et de l'ensemble des populations congolaises. Cette situation est connue. Pourquoi ces pays décident-ils, en un clin d'œil, de balancer dans la rue plus de 4000 personnes.
Ce sera peut-être la tâche de la Fédération des Congolais de France que vous dirigez, professeur.
Mais disons que même la Fédération des Congolais des étrangers, quel que soit le pays, lorsque on vous annonce à quelques jours ou à quelques semaines qu'on va mettre dehors 4000 Congolais, j'avoue que même si c'est légitime que les pays appuient leur propre législation, on peut bien se demander pourquoi le gouvernement de Grande-Bretagne ne peut pas différer ces expulsions pour laisser le temps au gouvernement congolais, dans les jours ou les mois qui viennent, organiser dans les meilleures conditions ce transfert, en laissant au moins le gouvernement l'opportunité de regarder autour de lui quelles sont les conditions de faisabilité de ce rapatriement par rapport à la situation globale du pays qui est tout à fait désespérante.
Merci, professeur. Quelles sont les mesures d'accompagnement et d'encadrement prévues par les pays d'immigration et le gouvernement congolais? C'est la dernière partie de cette émission consacrée, je vous rappelle, au rapatriement annoncé pour bientôt de 4000 Congolais vivant en Grande-Bretagne. Nous avons comme invité Ruffin Kilimpimpi, conseiller juridique de l'ADG de la DGM, Direction Générale de Migration, et le professeur Moïla Chiembe, il est président de la Fédération des Congolais de France en séjour à Kinshasa. Sans transition, nous rappelons encore que nous avons tout fait en vain pour avoir un membre du cabinet au ministère des Affaires étrangères. Nous posons tout de suite la question à vous, Ruffin Kilimpimpi, puisque vous êtes conseiller juridique de l'ADG de la DGM. Quelles sont les mesures d'accompagnement et d'encadrement prévues par les pays d'immigration? Parce que la DGM, à travers vos chefs, vous avez eu à parler avec des diplomates. Quelles sont donc les mesures qui sont prévues pour encadrer et accompagner les Congolais qui vont être rapatriés bientôt?
Merci pour la question. La lutte contre l'immigration irrégulière passe par une coopération renforcée entre le pays où se trouvent ses compatriotes et notre pays. Et pour permettre à notre pays d'accueillir ses compatriotes dans la dignité, il y a des préalables. Le premier préalable s'analyse en termes d'identification. Il faudrait que le service de la Direction générale de l'immigration puisse identifier le candidat au retour.
Est-ce que c'est déjà fait?
Ce n'est pas encore fait, ça sera fait dans un avenir proche. Pourquoi cette identification préalable? C'est tout simplement pour éviter que dans ce lot de soi-disant Congolais qui reviennent, qu'on ait des étrangers. Et cela a déjà eu lieu lors du rapatriement de Congolais d'Afrique du Sud. Dans le lot, il y a eu des sujets non congolais. Donc il faudrait que cette identification préalable s'efface pour que on puisse éviter ce genre de désagréments. Ça, c'est une identification en amont. Oui. En aval, il faudrait une autre identification par rapport aux éléments qui seront recueillis auprès de ses compatriotes, n'est-ce pas, qui sont candidats au retour.
Est-ce que ça sera fait?
Ça sera fait, soyez rassurés, pour que nous puissions nous assurer des adresses de familles d'accueil, de telle sorte que lorsque ses compatriotes vont rejoindre la mère patrie, qu'ils puissent, n'est-ce pas, être réintégrés de manière à leur permettre d'oublier cette rupture entre la vie qu'ils ont menée en Europe et la vie chez nous, ici au pays.
Oui, mais professeur Moïla Chiembe, est-ce que c'est suffisant ce que les conditions qu'annoncent Ruffin Kilimpimpi de la DGM?
Je ne sais pas exactement comment évaluer ce qui est en train d'être dit. Bien sûr, quand on voit la situation générale de la République démocratique du Congo, on ne peut pas imaginer que les conditions de rapatriement, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, nous sommes quand même dans un pays post-conflit, où toutes les structures ont été totalement désamorcées et que la capacité même de l'administration publique congolaise, la capacité du gouvernement de mettre les moyens au service de la direction de l'immigration pour vérifier éventuellement les conditions de séjour des étrangers, la possibilité surtout d'accueillir les Congolais qui seraient ou revenus de l'étranger de leur gré ou chassés comme dans les conditions de ce qui nous concerne ici, on ne peut pas douter que toutes les conditions n'étant pas réunies et que les difficultés du gouvernement allant s'aggravant, qu'il ne puisse pas y avoir des conditions optimales d'accueil des Congolais de l'étranger, parce qu'il ne peut pas y avoir un secteur privilégié d'accueil alors que l'ensemble du gouvernement, l'ensemble du pays est sinistré, non seulement par les guerres, mais par l'absence de moyens. Ça, c'est un problème d'objectivité. Il faut bien regarder, qu'on soit congolais ou non, la réalité, le gouvernement ne peut pas faire des miracles.
Merci, professeur Moïna Chiembe. Nous allons prendre d'autres opinions. Non, nous vous gardons, professeur, vous êtes encore dans cette émission. Nous prenons les opinions, d'autres opinions des auditeurs avec Kelly Nkouté. Bonsoir, Kelly.
Bonsoir, Jean-Claude. Joe Igor Mukebo de Lubumbashi au Katanga pense que c'est le manque d'emploi qui fait que l'immigration s'intensifie. Jacques Boli de Mbandaka d'Équateur demande quand et comment tous ces Congolais sont-ils arrivés en Grande-Bretagne pour qu'ils soient rapatriés en grand nombre. La DGM de la RDC doit en tirer une leçon parce que c'est n'importe qui entre en RDC, même sans document. Augustin de Béné dans le Nord qui vous dit ceci, 4000 personnes, c'est tout un peuple qu'on ne doit pas chasser, qu'on leur accorde d'abord le statut des réfugiés, puis on procédera à leur retour après que le gouvernement ait établi les structures d'accueil. Il continue en posant cette question, quelles sont les dispositions prises par le gouvernement pour accueillir les compatriotes expulsés?
Voilà, Patti Mbujima et au Kassai Oriental qui lui se demande comment sera la RDC avec ce grand nombre de Congolais expulsés qui rejoint un grand nombre de chômeurs. Le gouvernement a intérêt à créer des emplois. La suite avec Kili Kouté.
Enfin, Eric Malamou du Siro dans la province orientale demande pourquoi ce rapatriement intervient maintenant seulement. Aujourd'hui, les clandestins congolais font la honte de la RDC au niveau mondial. Ils demandent quelle est la stratégie que la RDC va adopter pour freiner automatiquement les déplacements clandestins.
Oui, votre réaction, Ruffin Kilimpiti de la DGM.
Merci. Je comprends la préoccupation de ces compatriotes. Il n'est pas aussi vrai que, au niveau de la RDC, les clandestins ont libre cours. Je ne pense pas dans la mesure où, lorsque vous essayez de vérifier...
Il n'y en a pas beaucoup qui sont expulsés quand même, hein, M. Ruffin.
Non, mais je vous ai dit tout à l'heure que depuis le mois de février jusqu'à ce jour, la direction générale de l'immigration a déjà eu à reconduire la frontière plus de 190 personnes, tant par les beach mobilité, par... l'aéroport international d'Njili.
C'est comme on dit qu'il n'y en a pas beaucoup. Quoi, dans notre...
Il n'y en a pas beaucoup, mais nous subissons. La République démocratique du Congo subit en ce moment, n'est-ce pas, l'immigration irrégulière de la part de certaines communautés qui, en fait, trouvent à notre pays un tremplin pour rejoindre l'Angola.
Vous pouvez conclure en 5 secondes parce qu'on n'avait pas tout le temps.
Voilà. Je vous remercie de nous avoir invités. Nous pensons que, comme l'a si bien dit le professeur, en dépit du fait que nous puissions organiser une opération d'identification de ces compatriotes pour connaître qui est congolais et qui ne l'est pas et qui habite où, nous pensons que tous ces pays-là qui, pour le moment, ont pris la résolution de rapatrier nos compatriotes, nous leur demandons de différer. N'est-ce pas ces opérations dans la mesure où nous sommes un pays post-conflit
et recherchant. Et nous espérons que vous allez le faire officiellement. Professeur Moïla Chiembe, on termine avec vous. Vous avez une minute pour conclure.
Oui, je pense qu'il ne s'agit pas ici, ou il ne faut pas exactement demander au gouvernement congolais de faire la réciproque, c'est-à-dire il n'y a pas d'honneur à expulser les étrangers. C'est de l'égoïsme des pays industrialisés, tout simplement. Notre pays.
Même s'ils sont dans l'illégalité.
C'est un pays d'hospitalité, il faut rappeler que c'est un pays de tradition de la porte ouverte et que même si Mobutu n'est plus là, il y a la fameuse vocation africaine du Zaïre ou du Congo qui fait que notre géographie, par rapport à nos coutumes et traditions, les mentalités, il y a des obligations d'hospitalité que notre pays doit assumer. Il ne faut pas tomber dans le travers, c'est pas parce que les pays étrangers, notamment les pays européens occidentaux, à force d'enrichissement, les gens sont tombés dans une sorte d'individualisme exacerbé, ils voient toujours des menaces partout, même les petits jeunes gens qui arrivent en Europe, on les prend pour des déstabilisateurs ou des gens qui viennent prendre du pain, des Anglais, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses qui sont dans l'épisode des malheurs du monde.
Oui, mais...
Nos gouvernements, quelle que soit leur misère, doivent savoir raison garder. Le Congo, c'est un pays d'hospitalité. Il ne faut pas tomber dans le piège de l'individualisme occidental pour expulser l'étranger, même si ce sont des clandestins.
Oui, mais professeur, il y en a aussi qui ne se conduisent pas toujours très bien.
Si les gens ne se conduisent pas bien, on a de loi. l'honneur de la République démocratique du Congo, c'est de voir son gouvernement respecter ses propres lois.
Merci, et professeur.
Être traité avec dignité.
Merci,
et
professeur.
Soumis devant les tribunaux.
Voilà, merci, professeur Moïna Tchimbe. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Sadine Foula et Ritier Sidiakala l'ont réalisé. Au nom de toute l'équipe, je vous dis au revoir et merci de nous avoir suivis sur votre radio, Radio Okapi. Thank you.